Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un magazine largement consacré au premier anniversaire de l'élection du pape François, ce pape qui rêve d'une église pauvre pour les pauvres, a déclenché une véritable révolution, celle de la simplicité évangélique, de l'humilité et de la normalité. Comme tous les jours, nous vous proposerons également quelques échos de la vie de l'église dans le monde. Nous verrons que les évêques d'Amérique latine sont préoccupés par l'escalade de la violence au Venezuela. Ils demandent que cessent les abus policiers et que les droits des manifestants soient respectés. Nous verrons également que la violence des moines bouddhistes s'accentue sur les communautés chrétiennes du Sri Lanka.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Le premier anniversaire de l'élection du pape François le 13 mars 2013 continue de susciter une profusion de publications, commentaires et initiatives. Médias, institutions ou simples particuliers, chacun veut apporter sa contribution à cette célébration planétaire, tandis que le compte Twitter @pontifex dépasse désormais les 12 millions de followers. Après la surprise initiale, le pape, venu du bout du monde, a très vite conquis les fidèles par son insistance sur la miséricorde, ses gestes familiaux, chaleureux par sa spontanéité et sa simplicité. Xavier Sartre.
Tour à tour, tendre comme des caresses ou tranchante comme une lame, ses catéchèses quotidiennes sont devenues la trame de son action pastorale. Ses nombreuses interviews sont largement relayées. Celui qui se présente avant tout comme l'évêque de Rome s'intéresse beaucoup aux gens ordinaires, à ceux qui sont à la périphérie. Mais il secoue les plus proches et bouscule les habitudes et les schémas. Prêt à modifier la physionomie de la curie romaine, il gouverne l'Église avec énergie et prudence, en s'entourant de collaborateurs, d'hommes de confiance, d'experts et de spécialistes venus du monde entier. Il entend procéder à des réformes pour rendre la curie plus efficace et moderne. Pour y parvenir, il a créé de nombreuses commissions ainsi qu'un secrétariat de l'économie. Des cabinets d'audit privés ont été chargés de vérifier les comptes et les méthodes de travail du Vatican. Très critique à l'égard du capitalisme ultralibéral et de la mondialisation de l'indifférence, le 265e successeur de Pierre encourage les catholiques à s'engager sur le terrain social contre toutes les formes d'exploitation. Un de ses objectifs est de relancer l'élan missionnaire de l'Église. Les évêques doivent être des pasteurs et pas des bureaucrates. Autre priorité, la réponse de l'Église aux défis qui se posent à la famille moderne. L'Église, dit-il, n'est pas une douane, mais une maison paternelle aux portes toujours ouvertes. Le pape François consulte et puis décide seul, face à Dieu, conformément à la tradition jésuite.
Lors d'une célébration eucharistique samedi en la cathédrale Saint-Michel et Gudule, l'archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr André-Joseph Léonard, a salué la simplicité et l'humilité de l'évêque de Rome. Le pape François, a-t-il dit, parle comme un bon pasteur parle à ses paroissiens. Il est un berger qui vit avec ses brebis. Mgr Léonard était à Rome mardi, nous l'avons brièvement rencontré.
Je suis très touché par les appels que lance le pape à la joie. La joie de l'évangélisation. Sortir, ne pas rester enfermé dans les petits cénacles, dans les ghettos, mais sortir, aller à la rencontre des gens, accueillir avec un cœur maternel plein de miséricorde. Toujours repartir du centre qui est la personne même de Jésus, source de la miséricorde pour l'humanité, pour la guérison de l'humanité. Je trouve que ces appels sont très, très beaux, très percutants, notamment la priorité concrète accordée aux pauvres dans la société et dans l'Église. Tout cela a été déjà dit auparavant par Jean-Paul II, par Benoît XVI, mais il le dit dans sa manière à lui, qui touche beaucoup de cœur et qui fait beaucoup de bien à l'Église et qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Évidemment, Jean-Paul II avait aussi très fort marqué l'opinion publique à son époque. Mais voilà, celui-ci le fait avec la même ardeur que Jean-Paul II, mais dans un style qui passe très bien, qui communique très très bien, d'où je pense l'impression qu'il a faite sur l'opinion mondiale. Et très rapidement, en une année, il est un des hommes les plus inspirants de toute la planète et nous en rendons grâce à Dieu. L'invitation qu'il adresse à la pauvreté, l'invitation à la pauvreté, je crois que tout le monde doit se laisser inspirer. à commencer par les évêques qui doivent avoir le souci de vivre sobrement, pauvrement, modestement, qui doivent être vraiment des bergers au milieu de leur peuple. Eux aussi sortir, ne pas trop rester enfermés dans leur évêché, mais aller à la rencontre des gens et du maximum de gens possible.
Monseigneur Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles. Le pape François prône la transparence, la sobriété, la culture de la rencontre, la solidarité entre les générations. Il fustige le carriérisme, le cléricalisme, les médisances qui fomentent la division, la mondanité spirituelle, le péché de l'idolâtrie et les privilèges. Mais qu'en pensent les cardinaux de l'Église catholique? Écoutez le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux en France.
J'étais très attaché aux enseignements de Benoît XVI. Ils m'ont beaucoup nourri. Mais j'apprécie le pape François qui lui invite à la conversion. Pour entrer dans une dynamique d'évangélisation. J'ai lu et j'ai relu, j'ai été amené d'ailleurs à la présenter, l'exhortation du pape François sur la joie de l'évangile. On peut dire qu'on a là repris, recueilli tous les grands thèmes de la prédication du pape François, la dynamique même de son pontificat, c'est-à-dire il invite l'Église à se laisser habiter par la joie de l'Évangile et à sortir, c'est-à-dire de son ronronnement, de ses habitudes, de son milieu où on est bien ensemble, pour aller à la périphérie, aux périphéries, c'est-à-dire à tous les hommes et les femmes qui sont en attente de quelque chose, pour leur annoncer le Christ. Nous avons besoin aujourd'hui de l'appel à ce dynamisme apostolique, à ce dynamisme missionnaire, et on sent que le pape François ne s'épargne pas pour sans cesse invité à cette mise en route missionnaire.
Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, interrogé par Antonino Gallofaro. Le cardinal Philippe Ouedraogo, l'archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, nous a fait part lui aussi de ses impressions. Il fut un des premiers évêques à être créé cardinal par le pape François.
Moi, ce serait assez téméraire pour moi de juger la pastorale du Saint-Père après quelques mois de pontificat. Qui suis-je pour apprécier? Toutefois, il manifeste quelque chose. Il est un instrument du Seigneur pour l'Église de ce temps. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut dire certains, voilà. Je pense qu'il apporte un souffle nouveau. Ce qui me réjouit et que je regarde avec expérience, c'est ce retour à l'Évangile. Le retour à l'Évangile est quelque chose de fondamental pour la vie chrétienne. Et par voie de conséquence, vivre comme Jésus, à la manière de Jésus, qui était tout à tous, et qui avait une prédilection pour les petits, les pauvres, les laissés pour compte. Et je crois que ce pape reflète cela. Même s'il y en a qui restent perplexes par rapport à ce qu'il est ou ce qu'il fait, je pense que là, il y a des gestes prophétiques qui sont bénéfiques pour la crédibilité de l'Église. Et je souhaite vraiment qu'il puisse être lui-même, être fidèle à Jésus-Christ, fidèle à la parole évangélique, pour fortifier ses frères et ses sœurs dans la foi.
L'archevêque de Ouagadougou, interrogé par Marie Duhamel. Pour célébrer la première année du pontificat du pape François, l'association des Papa Boys organise un marathon de 24 heures de prière au centre San Lorenzo, un centre d'accueil pour les pèlerins situé à quelques mètres de la place Saint-Pierre de Rome. Cette initiative a démarré ce mercredi à 18h par une messe, suivie par l'adoration eucharistique et la récitation du chapelet. Et ce n'est pas la première fois qu'a lieu un tel événement. Pour fêter les 77 ans du Saint-Père, son premier anniversaire en tant qu'évêque de Rome, le centre San Lorenzo avait organisé 24 heures de prière toute la journée du 17 décembre. Des initiatives inspirées par le pape, comme l'explique Daniele Venturi, il est le responsable de l'association des Papa Boys.
Prier, c'est la chose la plus simple. Ça ne coûte rien et c'est ce qui donne le plus de joie au pape. Le Saint-Père nous appelle régulièrement à chaque occasion à la prière et il nous demande aussi de prier pour lui. Avec cette veillée, nous répondons en toute simplicité à ses appels. C'est un cadeau que nous offrons au pape, prier vraiment et avec notre cœur pour lui.
Qu'est-ce que représente pour vous le premier anniversaire du pontificat du pape François ?
Dans l'histoire de l'éternité, qui est la plus belle caractéristique du christianisme et du chrétien, il n'y a pas d'échéance temporelle, 1 an, 2 ans ou 5 ans. Donc cet anniversaire est plus symbolique, ça signifie que nous avons passé 1 an ensemble. C'est aussi très important sur le plan spirituel parce que l'enseignement qui nous est donné est très important. Et ceci nous rappelle rappelle, comme nous célébrons la nouvelle année avec une bouteille de vin pétillant, de nous retrouver en tête-à-tête avec le Seigneur pour rendre grâce à cette première année que nous avons passée ensemble. Donc c'est essentiel de trouver une occasion pour se détacher du quotidien et de se tourner vers le Seigneur pour le remercier de ce don de l'Église, de la foi et aussi pour notre nouveau pape.
Daniele Venturi, responsable de l'association des Papa Boys, interrogé par Audrey Arradondi. Les chrétiens se mobilisent en faveur de l'Europe dans la perspective des élections de mai prochain. Les églises et les organisations chrétiennes de l'Union européenne veulent en effet profiter de ce scrutin pour ouvrir un dialogue avec les candidats et leur exposer leur vision de l'Union européenne. Elles la conçoivent comme une communauté de personnes déterminées à promouvoir un monde juste et durable où chacun puisse vivre dignement et épanouir son potentiel à l'abri de la pauvreté. Antonino Gallofaro.
Entre le 22 et le 25 mai, les électeurs européens seront appelés à choisir les 751 membres du Parlement européen. Dans une démarche conjointe, quatre organisations œcuméniques ont présenté leurs priorités devant le Parlement: la défense des droits de l'homme, l'accueil des immigrés et la lutte contre la pauvreté. Les épiscopats catholiques de l'UE sont eux aussi mobilisés à l'approche de ce scrutin qu'ils considèrent comme crucial pour les démocraties européennes et pour les futures orientations de l'Union européenne. Ils présenteront un document le 20 mars prochain au cours d'une conférence de presse dans le cadre de l'Assemblée plénière de printemps de la Comécé. La Commission des épiscopats de la Communauté européenne entend réaffirmer le soutien de l'Église catholique au processus d'intégration européenne, énoncer les questions essentielles pour le bien commun et aider les électeurs à voter conformément à leur conscience. Les évêques catholiques européens se disent par ailleurs préoccupés par la grave crise économique et sociale qui entretient les nationalismes et les populismes dans tous les États membres, par le nouveau rapport de force sur la scène internationale et par les conflits armés qui constituent un défi pour l'UE quant à son rôle sur la scène mondiale.
À noter que les défenseurs du repos dominical, quant à eux, misent sur ces élections européennes pour obtenir des engagements auprès d'élus et de candidats. Soutenue par la Comécé, l'Alliance européenne pour le dimanche espère mobiliser l'opinion sur ce thème en vue des élections. L'évêque de Valladolid est le nouveau président de la conférence épiscopale espagnole, élu sans surprise par l'Assemblée plénière des évêques réunie depuis mardi. Monseigneur Ricardo Blasquez Pérez succède à l'influent archevêque de Madrid, le cardinal Ruco Varela, qui occupait cette charge depuis 2008. Monseigneur Blasquez a lui-même déjà présidé la conférence épiscopale espagnole entre 2005 et 2008. Pendant son mandat, en 2007, il avait défrayé la chronique en se prononçant en faveur de la disparition de l'ETA au plus vite, totalement et sans contrepartie. Il avait par ailleurs estimé que le dialogue entre les autorités politiques et ecclésiastiques devait se faire dans l'indépendance mutuelle. Le nouveau président est âgé de 72 ans, il est originaire d'Avila, il a obtenu son doctorat en théologie à l'Université grégorienne de Rome. Il a été entre autres doyen de l'Université pontificale de Salamanque et a fait partie du groupe des cinq évêques chargés par le Saint-Siège d'effectuer une visite apostolique auprès de la congrégation des Légionnaires du Christ. Ce mercredi, Monseigneur Blasquez a été élu avec 60 voix sur 79 ayant droit de vote. En Allemagne, c'est l'archevêque de Munich, le cardinal Marx, qui a été élu mercredi président de la conférence épiscopale. Le cardinal Marx fait partie du conseil des 8 cardinaux choisis en mai dernier par le pape François pour l'aider à réformer la curie et à gouverner l'Église catholique. Par ailleurs, c'est lui qui a été chargé de coordonner le nouveau conseil de l'économie institué il y a quelques jours par le Saint-Père. En 2011, sous les auspices de l'Université pontificale grégorienne de Rome, il avait participé à la création d'un centre de formation par Internet pour la protection de l'enfance dans l'Église, basée en Bavière. Au Venezuela, les étudiants mécontents et les opposants au président Nicolas Maduro restent mobilisés. Cette crise sera au cœur de la rencontre annuelle des secrétaires généraux du CELAM, le Conseil épiscopal latino-américain, qui se tient jusqu'à vendredi à Bogota, en Colombie. Le CELAM regroupe les épiscopats de 22 pays. L'ordre du jour de cette réunion prévoit une réflexion sur la situation sociale, économique, politique et religieuse de l'Amérique latine et des Caraïbes, mais les protestations antigouvernementales qui agitent le Venezuela depuis un mois pourraient bien monopoliser une partie de l'attention des participants. Le Sélam est en effet préoccupé par l'escalade de la violence qui s'est déjà soldée par une vingtaine de morts. Selon le secrétaire général de l'Organisation des États américains, l'Église catholique pourrait être le médiateur capable de mener un vrai dialogue de paix et de résoudre la terrible situation que connaît le Venezuela depuis un mois. Concentré au départ sur l'insécurité, le mouvement a progressivement fait tache d'huile au Venezuela avec des manifestations quasi quotidiennes dans plusieurs villes. Les revendications se sont étendues à la vie chère et aux pénuries qui perturbent le quotidien des Vénézuéliens. Dans ce contexte, les lieux de culte catholiques n'échappent pas au climat d'insécurité. Ces derniers jours, plusieurs églises ont fait l'objet d'actes de vandalisme, y compris en pleine messe. C'est un rapport important et qui pourtant ne fait pas la une des médias. Le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, Olivier de Schutter, a fait le point sur la faim dans le monde devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Un rapport cinglant dans lequel il dénonce la schizophrénie des États qui s'accrochent aux règles de l'OMC qu'il juge dépassées. Pour l'OMC, dénonce Olivier de Schutter, la mesure du succès reste l'augmentation des exportations et des volumes commerciaux plutôt que la réduction de la pauvreté rurale et l'aide aux petits paysans. Le rapporteur s'insurge surtout contre un système qui produit largement de quoi nourrir deux fois la planète et pourtant plus de 800 millions de personnes sont mal nourries dans le monde. Olivier de Schutter.
Nous produisons effectivement entre 4500 et 4800 kilocalories par jour et par personne à l'échelle mondiale, pratiquement le double de ce qu'il faut pour nourrir une population de 7 milliards d'individus. Mais au final, il reste aux alentours de 2000 kilocalories par jour par personne à distribuer. Pourquoi ? Parce qu'une partie importante de ce qui est produit est perdu, soit que cela pourrisse sur place en raison de l'absence de moyens de transformation adéquats ou de moyens de transport adéquats, soit que l'on gaspille toute une série de denrées alimentaires au niveau des ménages ou de l'industrie de transformation agroalimentaire ou au niveau de la grande distribution, soit encore qu'une part des céréales partent à nourrir le bétail. Des territoires entiers qui sont utilisés, par exemple dans le cône sud-américain, pour produire du soja pour l'alimentation du bétail en Europe. Et c'est des situations complètement aberrantes où, au fond, il y a une concurrence mondiale pour les ressources rares que sont devenues la terre et l'eau.
Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé là ?
Essentiellement, les politiques agricoles ont été guidées par le souci d'exporter davantage et de satisfaire les attentes des marchés internationaux. Et ceci parce que le commerce international a été, au fond, le stimulant et l'aiguillon des politiques agricoles. Du coup, les petits producteurs peu capables de réaliser des économies d'échelle dispersées sur de grands territoires de manière telle qu'ils n'étaient pas intéressants pour les grands acheteurs de matières premières agricoles, ces petits producteurs ont été totalement négligés.
Qu'est-ce que vous préconisez pour équilibrer le système ?
Il faut maintenant revenir à une approche beaucoup plus équilibrée où ces petits producteurs auraient des chances plus grandes d'avoir des revenus décents pour leur travail. Ça signifie non pas répudier tout ce qui a été fait par le passé. Moi, je suis partisan d'une coexistence de différents systèmes. Mais cela exige naturellement des gouvernements qu'ils aient conscience de la nécessité de protéger les petits producteurs beaucoup plus. Parce que si on laisse au marché dicter ses conditions, si on laisse les prix du marché déterminer la rémunération des producteurs, les petits producteurs vont être les perdants de cette mise en concurrence des agricultures du monde. Malheureusement, les États ne suivent pas toujours ces recommandations et malheureusement, le système commercial international reste très largement ancré dans une conception très 20e siècle, si vous voulez, où l'efficience, l'augmentation de productivité par les producteurs les plus compétitifs reste l'horizon des politiques qui sont conduites.
Le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, Olivier de Schutter, interrogé à Genève par Catherine Fiancan, Bokonga. Selon l'agence de presse Église d'Asie, les bouddhistes extrémistes poursuivent leurs agressions antichrétiennes au Sri Lanka. Le 26 février, un pasteur protestant et son épouse ont été attaqués dans leur église par une foule de quelque 300 personnes conduites par une dizaine de moines bouddhistes. Cette église protestante est proche d'un temple bouddhiste considéré comme un haut lieu de pèlerinage. Les émeutiers ont fait irruption dans le bâtiment pendant une assemblée de prières. Ils ont vandalisé les locaux et ordonné que le culte soit immédiatement arrêté. Les habitants des villages environnants ont reçu l'ordre de ne pas fréquenter les chrétiens, faute de quoi ils auraient à en subir les conséquences. La constitution sri-lankaise garantit la liberté de culte et de religion, mais une organisation de bonzes mène des opérations violentes à l'encontre des minorités religieuses de l'île. L'évêque anglican de Colombo, la capitale, a présidé un grand rassemblement œcuménique afin de protester contre l'augmentation des discours de haine et des attaques antichrétiennes par les moines bouddhistes ces derniers mois. Il a demandé au gouvernement de faire respecter la loi. Au mois de janvier, après le saccage pillage de 3 lieux de culte par des bonzes, plus de 2000 chrétiens avaient défilé dans les rues de Colombo pour réclamer le droit à la liberté de religion. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.